Donc, moi, je suis Lisa Terrazzoni. Je suis sociologue. Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Alors, je suis Lisa Terrazzoni, je suis sociologue. Donc, j'ai contribué avec Alexandra Poli, qui est là, et Julia Fabiano et Michel Peraldi à cet ouvrage qui est, on va dire, le fruit d'une recherche dont je vais vous parler tout à l'heure.
Brenda Le Bigot, moi je suis une des contributrices de l'ouvrage dans lequel j'ai parlé d'un de mes projets de thèse qui était assez imbriqué avec le projet donc des coordinateurs de l'ouvrage. Voilà.
Alexandra Poli, je suis chargée de recherche CNRS en sociologie au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Comme vient de le dire Lisa, donc, nous avons mené à quatre cette recherche sur les migrations de la France vers le Maghreb. Mais aujourd'hui, on vient présenter donc, cet ouvrage qui est le fruit d'un colloque qu'on avait organisé pendant la réalisation de notre recherche. Et on voulait publier cet ouvrage avant notre recherche comme un premier état des lieux de ce qui se fait aujourd'hui et depuis quelques temps maintenant, quelques années maintenant, sur ce qu'on pourrait appeler les migrations des nords vers les suds et notamment en France.
Julia Fabiano, moi je suis anthropologue et pareillement que mes collègues, je fais partie de l'équipe de recherche sur les mobilités de la France vers le Maghreb et après on a coordonné ensemble l'ouvrage sur les migrations de nord vers le sud duquel on discutera tout à l'heure.
Danielle Joly, je suis professeure émérite à l'université de Warwick en Angleterre et chercheure associée au Collège d'études mondiales. Je n'ai pas participé à cette recherche, mais par contre j'ai collaboré longtemps avec deux des collègues présentes ici, Alexandra Poli, Julia Fabiano. Je suis aussi dans le domaine de la recherche immigration, immigrés, ce que les Anglais appellent minorité ethnique, donc c'est tout à fait approprié que modestement je sois ici pour appuyer mes collègues.
Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter un petit peu d'où cet ouvrage vient. Donc, on est en 2011 quand on a envie, avec Julia, Alexandra et Michel, de travailler sur les migrations de l'Europe vers le Maghreb. Et donc, c'est avec cette envie-là qu'on monte un programme de recherche qui s'appelle « Mobilité Nord-Sud, nouvelle mobilité migratoire de l'Europe vers le Maghreb ». Et en fait, c'était une initiative qui partait d'un constat, c'est que le nombre d'Européens en fait, installés au Maghreb augmentait régulièrement et de manière significative depuis plusieurs années. Et en même temps, c'était un flux qui était assez peu exploré par les sciences sociales. Et donc, il y avait ça, déjà ce constat, hein, un constat empirique. Et puis, nous, on trouvait par ailleurs très intéressant et stimulant de regarder ce qui se passait sur ces routes migratoires, car il y avait un enjeu épistémologique fort pour la sociologie, l'anthropologie, enfin les sciences sociales. C'était en fait de mettre en question le schéma de pensée dominant, le plus courant, qui est aujourd'hui de dire que la migration, c'est un parcours qui va des pays pauvres vers les pays riches, hein, pour le dire un peu rapidement. Et donc, notre point de départ, c'était un pari, c'était le pari de penser ces flux de l'Europe vers le Maghreb au prisme de la sociologie des migrations et comme un pan, en fait, des phénomènes migratoires. Donc, avec cette idée-là, on monte ce programme de recherche émergent, ce qui a été financé par la ville de Paris, et on a les moyens de travailler pendant 3 ans. Et donc, on a commencé, on est parti de l'idée de s'intéresser aux figures, aux expériences et aux lieux, et évidemment aux logiques qui relevaient des migrations de l'Europe vers le Maghreb. On voulait observer, décrire les expériences. Voilà, vraiment les deux enjeux, je dirais, de la sociologie, de l'anthropologie, et on a planté notre tente de chercheurs, on va dire, dans 3 pays, donc le Maroc, la Tunisie et l'Algérie. Et chacun de nous a ouvert un chantier ethnographique, ou ce qu'on pourrait appeler un terrain, dans les centres urbains d'Alger, Tunis, Marrakech et Essaouira. Et là, on y est allé avec les méthodes des sociologues et des anthropologues. C'est-à-dire, on a déployé un dispositif ethnographique qui consiste à faire du terrain, à aller à la rencontre des gens, à mener des entretiens, à faire des observations, à recueillir des récits biographiques, enfin voilà, à regarder vraiment ce qui se passe dans le détail, je dirais. Et on avait deux axes qui nous ont un petit peu orientés. C'est que bah, d'un côté, on voulait évidemment voir les parcours migratoires, les réseaux, les pratiques de cette mobilité, de cette migration. Et puis, d'un autre côté, enfin, et en même temps, je dirais, on voulait voilà, se pencher sur les représentations et les impacts de ces flux migratoires. Et voilà, donc on s'est intéressé à retracer la complexité des parcours, à repérer la suite des événements qui, dans un parcours, peut conduire les gens à migrer. Autrement dit, un peu à mettre à jour la rationalité, on pourrait dire, de la migration, et le moment à partir duquel, bah, dans un parcours, la migration de ces Européens devient une option, à quel moment de leur parcours. Donc, on a observé des réalités qui étaient très diverses, et en même temps, on a vu qu'il y avait la récurrence de certains profils. Et voilà, donc on a fait nos terrains, on a travaillé, je vous dis, à peu près pendant 2 ans de manière très empirique, et puis... 2 ans après, on s'est dit, bon, quand même, il faut quand même qu'on fasse dialoguer ces travaux avec les travaux des autres chercheurs. Et on a organisé un colloque, donc en 2015, avec l'idée de voir comment nos observations pouvaient faire écho à ce qui pouvait se passer sur d'autres terrains. Et puis, en même temps, on voulait aussi mettre le prisme nord-sud, que nous, on utilisait, donc du nord de l'Europe vers le Maghreb, ce qu'on appelait le sud. On voulait mettre ce prisme nord-sud à l'épreuve plus large que celle du Maghreb, voire un petit peu et de l'Afrique. Et donc cet ouvrage est l'un des fruits de ce travail. Et l'ensemble des contributions présentes, elles reposent sur l'observation et la description de ces figures. Donc c'est très empirique. Elles incarnent, je dirais, à la fois de manière très spécifique des flux, des figures, mais aussi il y a quand même du commun dans toutes ces expériences. Et voilà, on a essayé, à travers ce premier ouvrage, qui est un ouvrage exploratoire, de retracer ces spécificités et en même temps ces aspects très communs de ce que peuvent être les migrations des nords vers les suds. Je passe la parole à Julia.
Voilà, je vais reprendre effectivement de là où de ce que tu viens de dire, en disant que l'ambition de notre ouvrage était, comme tu viens de le souligner, de dresser un état de recherche française en particulier. Ce sont des chercheuses et des chercheurs français qui ne travaillent pas tous nécessairement en France, ni à partir de la France, sur un phénomène social qui, vous disiez en ouverture, est souvent délaissé, peu pris en compte dans le champ migratoire. C'est un peu l'angle mort, ou en tout cas, le sujet écarté, et pour plusieurs raisons, on pourrait y revenir, mais disons d'emblée que c'est une forme d'illégitimité, le Nord-Sud, on y reviendra sur les raisons de cette illégitimité, face à ce qu'on a l'habitude de nommer migration dans le langage courant, et qui concerne plutôt le Sud-Nord ou le Sud-Sud que le Nord-Sud. Alors, très rapidement, je dirais 2 mots sur ce couple migration-mobilité, qui est un couple ambivalent, qui parfois se recoupe, parfois ne se recoupe pas du tout, qui ne renvoie pas nécessairement aux mêmes réalités, non pas tant d'un point de vue étymologique, parce que les deux, effectivement, désignent des déplacements, des flux, des trajectoires, mais du point de vue de du sens social qui est mis derrière ce terme. Alors, migration, dans son acception courante, renvoie aux trajectoires et aux flux d'individus des pays du Sud vers les pays du Nord, et donc implicitement à une polarisation, un déséquilibre entre pays. On estime que les pays du Sud, les pays émetteurs, soit des pays soit pauvres, soit en guerre, ou en tout cas des pays moins favorisés, où les conditions de vie sont moins favorables que dans les pays du Nord. Et donc, l'idée courante qu'on a des migrants, dans l'imaginaire commun, qui est en partie relayée par les sciences humaines et sociales, et nous, on l'a vu au moment où on faisait cette recherche, à quel point on était presque illégitime de parler de migrants pour parler des individus qui s'est déplacé des nord vers les sud. L'idée courante, c'est que les migrants sont associés à une pauvreté structurelle et à une condition de précarité, fuyant la faim, la guerre, les violences, ce qui est en partie réel, mais ce qui n'épuise pas, on va dire, l'ensemble des expériences des migrants. En contrechamp de ce terme, depuis une quinzaine d'années, le terme mobilité s'est imposé pour désigner des trajectoires et des flux considérés comme privilégiés, et je ne vais pas développer parce qu'Alexandra le fera tout à l'heure. Et derrière mobilité, on a une déclinaison de catégories, de phénomènes qui sont posés comme distincts, les lifestyle migration, c'est-à-dire les migrations d'aménité, ce que sont traduits en France comme migration d'aménité ou en quête d'une vie meilleure, l'expatriation, le tourisme dont Brenda nous parlera après, et le retour. Or, si le champ sémantique associé aux migrations est clairement négatif, celui associé aux mobilités est clairement positif. Il suffit de penser qu'on parle de mobilité estudiantine, mobilité professionnelle. Donc, on a du mal aujourd'hui à penser les migrants comme des mobiles, ceux qui migrent comme des gens qui seraient en mobilité, alors que quand on emploie ou on entend ce terme de mobilité, on a d'emblée quelque chose qui est de l'ordre de l'ascension sociale, qui doit être encouragé. Donc, il en découle que les déplacements des gens qui sont originaires des pays dits stables, économiquement et politiquement, ne pourraient pas être associés à des migrations, ne pourraient être pas nommés comme des migrants, mais plutôt associés à des mobiles, à des gens qui se déplacent. Le pari que nous avions fait au début de la recherche et tout le long du développement, on va dire, de la réflexion, au moment du colloque et puis de l'élaboration du livre, auquel on a voulu donner ce titre avec un parti pris important, les migrations des nord vers le sud, c'est que d'isoler les migrants et les mobiles revient à enfermer des expériences et des pratiques dans un schéma préétabli sans qu'on le questionne réellement. Est-ce qu'il y a une réelle opposition entre des gens qui se déplacent des sud vers les nord et des gens qui se déplacent de nord vers le sud? Et nous avons, voilà, notre pari était de dire que malgré les spécificités, malgré les différences, ces individus-là partagent un certain nombre d'éléments et ils partagent sans doute le premier, le plus important, c'est que ces déplacements s'inscrivent dans des logiques structurelles, c'est-à-dire dans des relations entre des pays pour les uns et pour les autres. Toute migration des sud vers les nord n'est pas une migration contrainte, tout comme toute migration des nord vers les sud n'est pas une migration totalement libre. Elle répond aussi à des contraintes structurelles, à des exigences et qu'à à partir de cet élément-là, on peut effectivement considérer, définir les uns et les autres comme des migrants. Et une de nos hypothèses qu'on a voulu tenir avec l'ensemble des contributeurs avec lesquels on a réalisé notre ouvrage, c'était justement de remettre au centre l'analyse de ces dynamiques-là, entre dynamiques structurelles et dynamiques subjectives, dynamiques globales qui définissent et redéfinissent les nords et les suds. Finalement, qu'est-ce qui relève du Nord et qu'est-ce qui relève du Sud? Est-ce que la Chine, c'est du Nord ou c'est du Sud? Est-ce que les pays du Golfe, c'est du Nord ou c'est du Sud? Et bon, ce sont toutes des questions qu'on pose et qui nous permettent de réfléchir, non pas en termes géographiques, mais en termes de rapport de force, finalement. C'est, là, effectivement, ce sont d'autres enjeux qui se jouent. Ça, c'était un premier... vraiment un premier pari. Le deuxième pari, et Lisa le disait, dans cette démarche d'ouverture critique de champs de migration, c'était de ne pas se contenter des catégories qui sont souvent données pour acquises. Encore une fois, les lifestyle migration, les touristes, les revenants, les expatriés, mais de les questionner et surtout de questionner leur... leur séparation. Elles sont souvent considérées comme distinctes, comme séparées, comme définies dans un spectre de mobilité. Or, nous nous sommes rendus compte sur nos terrains et grâce à nos contributeurs qu'il y avait un continuum plutôt entre quelqu'un qui part pour des raisons professionnelles et qui décide de rester pour des raisons amoureuses ou individuelles, entre quelqu'un qui, par exemple, a un début de mobilité lié à un contrat protégé au sein d'une entreprise ou au sein de l'État, et donc il y a quelqu'un qui est expatrié et qui, puis finalement, se retrouve dans une installation beaucoup plus locale, donc qui le sort de cette catégorie de migrants, d'expatriés, pardon. Entre eux, je cite cet exemple parce que Brenda est là, mais elle en parlera bien plus longuement et de manière bien plus détaillée que moi, entre un touriste qui, après un séjour bref au Maroc ou en Indonésie, décide de rester plus longtemps et donc de devenir un véritable migrant, ou en tout cas un résident sur place. Donc comment finalement définir quelqu'un, comment pouvoir isoler, distinguer un touriste d'un migrant, isoler ces deux profils-là. Et puis, le troisième biais que nous avions relevé, c'est que ces catégories-là, et en particulier, la catégorie du retour, isolent des temporalités au sein de parcours de vie et opèrent de partitions sur la base d'implicites ethniques qui ne sont pas dits comme tels, mais qui agissent. Donc, la catégorie de retour est exemplaire à ce titre. On utilise le retour pour désigner les mobilités des Français ou de tout Européen né de tout individu né en Europe, mais d'origine immigrée, donc dont les parents auraient immigré. Et donc, c'est uniquement pour cette ensemble-là de population que lorsqu'on parle de mobilité nord-sud, on peut utiliser la catégorie de retour. Alors pourquoi un Français d'origine algérienne lorsqu'il va en Algérie ou un Français d'origine tunisienne lorsqu'il est en Tunisie serait un revenant et serait pas assimilé à un expatrié, à un touriste ou à d'autres? Donc ce sont ces enjeux-là que nous avons voulu questionner. Sur le retour, donc nous avons deux articles. Il y a aussi un article sur les migrants sénégalais circulants de Chantal Crène qui dit que finalement, là aussi, on utilise ces termes comme pour clore un parcours migratoire, fermer la boucle, alors que ces gens sont dans la mobilité et dans les allers-retours, et plus, dans quelque chose de beaucoup plus fluide et d'entre deux, donc du « go-between » dit Chantal Crène. Il me semble que effectivement nous sommes parvenus à une remise en question de ces catégories. Nous avons montré tout le long du livre qu'elles doivent être mises à distance et regardées en tout cas avec un œil critique, et que surtout on doit prendre en compte la trajectoire migratoire dans son ensemble et ne pas se limiter aux raisons du départ. Et donc à des catégories qui seraient figées et qui enlèveraient du dynamisme et de l'historicité à ces individus-là et à ces parcours-là. Juste avant de passer la parole à Alexandra, revenir sur donc ce terme de migration et de nord vers le sud. Le premier, migration, c'est vraiment pour souligner la complexité d'expériences individuelles, familiales, collectives, mais aussi bien institutionnelles. Et le terme de nord vers le sud, c'est pour réfléchir à la spécificité de ces mouvements-là, non pas pour les isoler des migrations du sud vers le nord, mais au contraire, pour les mettre en perspective et les faire dialoguer, et donc voir s'il y a des éléments spécifiques et quels sont-ils. Voilà.
Oui, donc, outre le fait de compléter le tableau des migrations internationales en rappelant que les migrations eh bien, correspondent à des logiques très, très différentes de la mondialisation et se font au fond dans toutes les directions. Une des principales ambitions de cet ouvrage, c'est de s'inscrire dans le sillage de la réflexion sur les significations sociales des déplacements humains, hein, pour prendre une catégorie qui permet de monter un peu en généralité et donc de sortir de ce que tu viens d'évoquer, Julia, qui nous a vraiment, accompagnés tout au long de cette recherche, à savoir cette espèce de dichotomie entre migration et mobilité. Et à travers ce que tu viens de dire, on comprend bien que la qualification des déplacements comme migration justement ou comme mobilité relève en effet donc moins d'un jugement de fait que d'un jugement de valeur, comme tu l'as très bien souligné. Et l'étude des flux nord-sud, elle permet non seulement d'explorer la vision normative qui définit, qui entoure justement ces flux, mais aussi de réfléchir à nouveaux frais sur les migrations sud-nord. Et tu l'as également bien souligné, à partir du jeu de contraste et d'articulation qui s'opère finalement entre ces deux grands flux. Et comme l'illustre en partie une des parties de ce livre intitulée « Retour, détour », mais qui au fond va bien au-delà aussi à travers d'autres contributions. Et tout au long des investigations qui ont bordé donc notre recherche, hein, que tu as présenté, Lisa, il y a quelques instants, on a pu constater une certaine permanence du thème du privilège, aussi bien dans les débats que dans la littérature, en fait, sur les mobilités, alors on va dire des occidentaux dans les pays du Sud. Une littérature très éclatée, ça a été aussi notre constat, en fait, dans nos investigations. Et c'est pour ça aussi qu'on a qu'on s'est mis au défi de faire un premier ouvrage portant sur cet état des lieux en affirmant finalement les migrations nord-sud comme un objet unifié. Et donc en allant puiser dans différents courants de recherche, tu en rappelais à l'instant, ou grands domaines de recherche sur les migrations, qu'il s'agisse des lifestyle migration ou des retours, pour ne prendre que ces deux exemples. Mais le privilège, en tout cas comme dimension constitutive du regard sur les flux nord-sud, s'impose de deux manières. D'une part, ceux qui migrent des nords vers les suds sont des populations privilégiées par opposition à la figure canonique de l'immigré, du migrant économique. Et dans cette perspective, eh bien, les flux nord-sud peuvent être entendus comme des phénomènes migratoires à condition d'être considérés comme des migrations privilégiées et bien en démarcation, en contraste par rapport à la figure de l'immigré ou à la figure du migrant plus générale. Et donc l'intérêt central dans beaucoup de recherches, c'est donc clairement l'expérience de la quête de l'épanouissement personnel, qui est au fond un peu disjointe de toute autre motivation, qu'elle soit économique, politique, familiale. Donc on rate toute une série de pans d'expérience des individus, au fond, qui se catalyse ou qui se polarise sur cette idée d'épanouissement personnel, d'amélioration de la qualité de vie également, etc. Et puis, ce sont des migrations privilégiées parce que en provenance d'États privilégiés par rapport aux sociétés de destination du Sud. Et là, le privilège est d'une certaine façon objectivé dans une définition structurelle des relations de pouvoir entre pays du Nord et pays du Sud, comme tu le rappelais aussi, Julia. Et dès lors, d'un côté, le privilège supposé donc des populations qui animent les flux Nord-Sud, au sens presque parfois d'une assignation, hein, finalement, tend à détourner d'une certaine façon l'intérêt heuristique des études pour ces formes de migration qui sont perçues au fond comme non problématiques, qui sont prises dans finalement la banalisation d'une certaine image de ces flux, ou pour certains qui sont considérés peut-être plus au sein du champ académique et plus particulièrement du champ des études migratoires, qui considèrent qu'il y a une certaine illégitimité à s'intéresser à ces formes de migration, ce qui contribue évidemment à perpétuer une partition et un intérêt sociologique donc plus ou moins marqué pour les flux sud-sud ou sud-nord, d'une part, et d'un côté, et les flux nord-nord et nord-sud d'autre part. Et puis, ce que je viens d'évoquer par rapport au privilège comme dimension constitutive du regard porté sur les flux nord-sud, Il en devient, il est tellement mis au centre de la réflexion qu'il en devient la catégorie pour désigner ces migrants. Et notamment dans la littérature anglo-américaine, on parle de « privileged migrant » qui au fond ramène la plupart des profils à la catégorie d'expatriés, ou encore la catégorie de « mobile professionals », donc qui... au fond, cantonne la réflexion sur ces flux nord-sud à, comme vous l'entendez, des figures bien particulières. Donc, toujours est-il qu'on a pu observer donc, une certaine réification, plus ou moins explicite ou implicite, plus ou moins assumée aussi ou non dans les réflexions, de cette idée de privilège qui, d'une part, est plus rarement envisagée sous l'angle des subjectivités, comment les individus se vivent effectivement ou non comme des privilégiés, mais aussi tend à retenir la réflexion sur les flux nord-sud dans une sorte de dénonciation ou une critique de cette position privilégiée, d'aller un peu droit vers cette analyse de ces flux. On peut noter notamment la tendance à lier de manière systématique et un peu prédéfinie l'expérience de l'expatriation, donc là que j'utilise, que je mobilise au sens très large du terme, et le prisme colonial, ce qui est évidemment une réflexion qui doit être menée, et d'ailleurs une partie des contributions dans cet ouvrage en parle, je pense notamment au papier d'Amélie Le Renard. Mais avec cet ouvrage, justement, ces constats nous ont conduit à défendre, donc tant dans notre recherche d'ailleurs que dans ce livre, hein, qui se veut encore une fois un état des lieux de ce qui est étudié en termes de migration nord-sud, une approche qui donne la part belle aux subjectivités d'acteurs dans la compréhension des raisons qui motivent le projet migratoire, mais aussi des formes d'installation auxquelles il peut donner lieu et des négociations identitaires qu'il engage. Et avec cet ouvrage aussi, et je crois que la table des matières en dit long de par les titres, on a voulu montrer aussi la grande diversité de profils qui marquent les flux nord-sud, et c'est un parti pris de notre part, sans prétendre pour autant évidemment à l'exhaustivité, hein, ça reste des segments de ces des migrations des nord vers le sud, vers les suds, mais... voilà, il nous a semblé important en tout cas de traverser et de mettre en regard ces différents profils qui sont donc plus rarement pensés comme des formes de migration tout court en réalité, même pas nord-sud, mais des formes de migration. Et je pense notamment au papier de Farhad Khosrokavar sur les jeunes qui prennent le départ pour le djihad. Tenter un autre pari dans ce livre, au fond, par rapport à cette polarisation qu'on a pu observer sur la question du privilège, c'est de tenter de comprendre les formes de hiérarchie sociale qui se jouent entre et au cœur même de ces catégories, au cœur même de ces profils qui animent les flux nord-sud. Et plutôt donc que de partir du thème du privilège, l'idée était de comprendre au prisme des expériences de profils d'individus qui peuplent ces flux nord-sud, comment se pose, s'affirme et sont vécues de manière plus large la question des inégalités sociales et celle du sentiment d'injustice. Comment, à l'aune des subjectivités, sont pensées ces questions, que ce soit dans le rapport aux sociétés locales, que ce soit dans la façon de penser son projet migratoire aussi, comment la question de l'injustice se présente et comment elle se transforme aussi dans le cadre de cette migration. Donc, je crois qu'il est temps maintenant de passer la parole justement à une des contributrices de cet ouvrage pour incarner peut-être davantage ce dont on vient de parler. Et donc je passe la parole à Brenda Le Bigot qui va nous parler donc de son papier qui porte sur les hivernants au Maroc et les backpackers en Thaïlande.
Merci beaucoup. Ben d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à venir partager cette table avec vous et merci de nous accueillir. Donc la recherche en fait que j'ai évoquée dans cet ouvrage sous forme d'un carnet de terrain, voilà un papier assez court et très empirique, plus précisément sous la forme de 4 portraits en fait, de backpackers et d'hivernants, en fait propose une mise en regard entre deux groupes donc qu'on pourrait qualifier de migrants nord-sud, que j'ai mis en regard dans un travail de thèse. Donc ces deux groupes là qui ont été évoqués tout de suite, j'explicite qui ils sont parce que les mots sont pas forcément évidents. La question des mots est d'ailleurs, enfin des catégories, des mots, je pense que ça nous a tous traversés quand on a fait ces recherches là. Ces deux groupes en fait partagent un peu une forme d'ambivalence entre la catégorie de touristes et la catégorie de migrants voire d'expatriés. Les backpackers, donc c'est de l'anglais backpack, sac à dos. Les backpackers, on pourrait traduire le terme en français par routard. C'est ces jeunes. les Canadiens ont dit touriste à sac à dos. Donc, bon.
Qui peut être une option.
C'est une option. Donc c'est pour faire très gros, on va dire, jeunes itinérants, itinérants de longue durée dans différents pays, qui voyagent avec un budget, disons, en termes de lieux d'hébergement, etc., qui va être plutôt limité. Ce groupe des backpackers, il est étudié plutôt dans la sphère des études touristiques. Mais dans l'émergence des lifestyle migration, il a commencé à être associé, en fait, aussi d'autres groupes, et notamment le groupe avec lequel moi je l'ai mis en regard, celui des, on peut dire, retraités internationaux. En anglais, certains disent snowbirds, donc les oiseaux migrateurs. C'est seniors, en fait, qui partent, notamment pendant l'hiver, passer les mois d'hiver au soleil. Donc, ces backpackers, moi, je suis allée les observer, les rencontrer, vivre avec eux en Thaïlande. Et ces hivernants, donc moi j'ai choisi d'utiliser le terme hivernant pour les seniors, je suis allée les rencontrer et pareil, vivre avec eux un petit peu au Maroc. Donc dans cette contribution que j'ai proposée, je tiens à souligner que c'est en fait la première fois que j'ai écrit un papier, avant du coup de le faire après dans la thèse, où j'ai croisé vraiment les deux groupes. Et en ça, le groupe de travail que vous formiez, le colloque que vous aviez proposé, et ensuite donc cet ouvrage, pour moi a été vraiment quelque chose de très marquant et de très un soutien conceptuel et disons en termes d'échange scientifique très très porteur, parce que avant ça, j'allais parler des backpackers dans le champ des études touristiques, j'allais parler des hivernants éventuellement un peu dans le champ des études migratoires, mais la mise en commun était compliquée. Et ces deux groupes étaient dans la littérature abordés de façon assez disparate, alors même que les pratiques de ces deux groupes relèvent bien de logiques communes que j'ai essayé donc d'identifier. L'une de ces logiques communes étant effectivement le fait d'aller chercher donc une vie meilleure, d'avoir un projet qui est marqué par un fort imaginaire du voyage, de la liberté. Et l'autre trait commun étant d'être dans une situation relativement privilégiée, d'avoir un passeport qui permet de partir, s'installer temporairement ailleurs. Donc moi j'avais pensé rapidement évoquer à travers les quelques portraits qui sont dans l'ouvrage, justement illustrer un petit peu cette notion de privilège aussi que Alexandra tu as bien reprise et qui est aussi évoquée dans l'introduction de l'ouvrage, qui est très, très intéressante pour faire le point, je trouve, sur ce champ conceptuel. Je voulais montrer à quel point cette notion de privilège, en fait, elle devient intéressante quand on regarde les migrations nord-sud, notamment quand elle nous permet de penser les imbrications des rapports de pouvoir, des relations domination, etc. Les imbrications très complexes à différentes échelles. Puisque si je prends donc deux des jeunes backpackers que j'évoque dans l'ouvrage, donc Miyu, alors c'est donc une jeune voyageuse qui est à l'origine, qui est d'origine japonaise mais qui vit en Australie depuis son enfance et qui que j'ai rencontrée alors qu'elle voyageait depuis un an et demi en Asie, en Amérique latine et qui a poursuivi pendant plusieurs années cette itinérance en s'arrêtant plus ou moins longtemps dans certaines destinations. Dame, qui est donc un autre backpacker que j'évoque dans l'ouvrage, lui est français, pareil, il a une trentaine d'années, quand je le rencontre, il voyage en Asie du Sud-Est depuis quelques mois, et il a fait 2 ans de séjour en Australie, dans le cadre de ce que vous connaissez peut-être, qui sont les visas vacances-travail, donc ces visas où on est un backpacker, mais qui va aussi cueillir des fraises, qui va un petit peu travailler pour financer son séjour. Donc, ces deux backpackers, ils partagent, si on les regarde à l'échelle mondiale, effectivement, ce privilège d'avoir un passeport, notamment, qui leur permet, qui leur ouvre des frontières, qui leur permet aussi d'accéder à des dispositifs de visa. Et ça, c'est quelque chose que je trouve aussi très intéressant, la dimension politique de ces dispositifs type les visas vacances-travail. On a aussi aujourd'hui maintenant des visas retraite pour les retraités, qui permettent de vivre plusieurs mois donc en Thaïlande par exemple. Donc ils ont accès à ces visas qui sont sélectifs de par leur nationalité, donc ils partagent à l'échelle mondiale effectivement ce privilège. Et pourtant, quand on regarde leur biographie, leurs origines sociales, etc., ils ont des parcours très différents et pas forcément si privilégiés parfois à l'échelle du pays de départ. Miyu a par exemple, elle voyageait toute sa jeunesse depuis toute petite, elle a fait beaucoup de tourisme international et donc elle a eu un apprentissage de la mobilité internationale très tôt et donc voilà, vient de classe moyenne supérieure. Donc partir en voyage, on pourrait la situer du côté d'une forme aussi de privilège à l'échelle de sa société de départ. Dame, quant à lui, a pris pour la première fois l'avion à 27 ans. Il est menuisier, ses parents sont classe ouvrière. Et en fait, partir en Australie pendant 2 ans, c'était une solution pour fuir une précarité, une vie qui ne lui convenait plus vraiment. Et en tout cas, une situation qui n'était pas vraiment privilégiée à l'échelle de sa société de départ. Donc, ce qui est intéressant avec ces logiques de privilèges, c'est de les regarder aussi à l'échelle de ce groupe-là, où en fait va y avoir une vraie diversité, et à l'échelle des sociétés de départ, bien sûr. Voilà, alors je voulais poursuivre et peut-être finir sur un autre intérêt, je trouve, de parler de ces migrations nord-sud. Et vraiment, moi, je soutiens cette idée d'avoir choisi d'utiliser le thème de migration. Aujourd'hui, je suis dans un laboratoire de recherche qui travaille sur les migrations, alors même que j'ai fait cette thèse sur des gens qu'on estampille touristes traditionnellement. Un des intérêts aussi, je me dis, c'est peut-être, au-delà du champ scientifique, c'est peut-être aussi pour un public plus large, pour, entre guillemets, le grand public, parler de migrants pour qualifier backpackers, un hivernant, des expatriés, etc., c'est peut-être avoir aussi un effort de réflexivité sur ces inégalités d'accès à la mobilité et opposer un petit peu à un discours sociétal qui peut être teinté de rejet par rapport à l'autre, de rejet par rapport à des gens qui voudraient bouger, être mobiles, venir, opposer un peu les propres contradictions de nos sociétés ou de nos discours. où, en fait, l'imaginaire du voyage, rêver d'ailleurs, construire un projet pour se créer un chez-soi ailleurs, bah, c'est des choses qu'on fait, qu'on pratique, que des individus occidentaux issus de nos sociétés pratiquent et qui sont valorisés d'ailleurs chez nous. Et donc pourquoi ces projets d'ailleurs devraient être interdits peut-être à d'autres. Donc voilà, en dehors du champ scientifique, je pense qu'il y a aussi un intérêt même plus large. Voilà.
Bien, je suis heureuse d'entendre cette conclusion éthique et déontologique qui nous met face à face avec notre réalité d'injustice structurelle qui repose de longue date sur le colonialisme, le néocolonialisme, la domination de certains États sur d'autres. Mais ce que je voulais dire, je veux dire quelques mots à propos du livre. Moi, ce qui m'intéresse à propos de ce livre, c'est qu'il relève un défi. Alors, le premier défi, c'est celui de cette illégitimité que vous avez évoquée, où on n'accepte pas dans la littérature, on a une littérature aussi fragmentée, qui ne propose pas d'analyse du phénomène, ni dans le cadre de la migration en général, ni dans le cadre de cette migration particulière. Donc, c'est relever ce défi-là. Et vous essayez d'établir un peu une cartographie des typologies. Et d'ailleurs, on peut voir à partir de ces typologies que certaines recoupent tout à fait la migration sud-nord. Donc ça, c'est très intéressant déjà. En dépit de migrations apparemment complètement différentes et disparates. Donc vous montrez quels sont les traits communs qui traversent ces phénomènes qui, en apparence, n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais ce n'est que l'apparence. Donc, c'est le véritable devoir du chercheur, d'aller au-delà de l'apparence pour trouver l'ordre ou le désordre qui se cache sous la société visible du sens commun. Donc, il y a déjà ça que j'ai trouvé très intéressant. Et deuxièmement, la question du privilège que vous remettez en question. J'en suis ravie. Parce que la question des privilégiés du privilège, notamment aux États-Unis et dans la littérature anglo-saxonne, a remplacé toute analyse de disparité sociale ou de disparité de classe. Et ça occulte les relations sociales dans une société donnée ou entre un État et un autre. Et ça, vous replacez dans sa... Moi, je dirais que vous interrogez ce privilège en proposant d'autres catégories. Et je pense que ça, c'est très important. Et en montrant que cette connotation tout à fait positive, cette connotation de liberté de cette migration, à l'encontre de la migration du sud vers le nord qui est constamment stigmatisée, à tel point que vous le montrez aussi dans le livre, à tel point que les enfants et descendants d'immigrés du sud sont eux aussi stigmatisés, considérés comme des revenants. Je pense que vous mettez en miroir ces choses-là. Et il y a deux choses qu'il faudrait poursuivre, c'est une suggestion. Une, c'est d'essayer de voir comment s'articulent les motivations de la migration avec les modes d'installation. Comment elles s'articulent, s'il y a une articulation. De montrer aussi qu'il y a une évolution, une situation change, le paradigme change, le routard qui est parti pour trouver l'aventure et qui reste, par exemple. Et donc il y a ce prisme-là, cette dimension-là, l'articulation entre migration et mode d'installation, et peut-être fouiller un peu davantage, vous l'avez fait déjà, mais fouiller un peu davantage l'articulation dans le pays d'installation ou d'installation partielle, hein, si ce sont des gens qui font des allers-retours. Par exemple, une partie de l'année dans le pays d'origine, une partie de l'année dans... De voir l'articulation de ces modes de socialisation avec la société qu'on appellera la société d'accueil ou la société d'installation. Et je pense qu'en mettant en prisme et en miroir ces différentes articulations, vous pourrez... arriver à une théorisation, à monter en hauteur et pouvoir intégrer déjà les recherches et les théories qui sont pléthores sur la migration sud-nord. Voilà, ce sont les suggestions que je ferais. Je pense qu'il pourrait faire avancer encore davantage cette réflexion. Je m'arrêterai là.
C'est pour le tome 2 alors.
Voilà. Oui.
Merci Daniel de nous donner des pistes pour le justement pour la suite.
Oui, ben, puisque vous allez préparer un autre ouvrage, c'est pour ça que je fais cette réflexion.
Absolument.
Et puis aussi, vous pouvez aussi capitaliser sur l'expérience que vous avez, au moins, en fait, que vous avez sur la recherche nord, non, sud-nord, pour pouvoir théoriser cette migration nord-sud qu'on n'a pas beaucoup étudiée encore. Renverser les paradigmes dans une certaine sorte. Bon, je me tais.
Est-ce que vous pouvez lire la table des matières, juste pour qu'on l'ait de manière sonore et qu'on ait un petit tour de...
Bien sûr. Donc, après une introduction que nous avons toutes les trois coécrites avec Michel Peraldi, qui n'est pas là ce soir. Ensuite, nous avons regroupé une première partie des textes dans une partie intitulée « Lifestyle, tourisme, expatriation, migration, quelle catégorie, quel biais ?» Et donc, on amorce la réflexion avec un texte d'Eve Bantman-Massoum sur les enjeux politiques de la migration entre États-Unis et Mexique. On poursuit la réflexion sur un texte qui vient d'être présenté, donc celui de Brenda Le Bigot sur les hivernants au Maroc et les backpackers en Thaïlande. Puis, il s'agit ensuite de réfléchir à comment vit-on dans une communauté fermée en Arabie Saoudite, hein, qui est une contribution d'Amélie Le Renard. Qui est suivi par les territoires palestiniens occupés, une destination migratoire, point d'interrogation de Clio Chavenot.
On enchaîne avec une deuxième partie qu'on a intitulée « Retour des tours ». Le premier article est signé par Simen Wang et il s'intéresse aux mobilités de Français d'origine chinoise en Chine. Le deuxième est signé par Aziz Nafa et Jean-Baptiste Meyer et s'intéresse au retour de la diaspora algérienne. Et le troisième est celui de Chantal Crène, intitulé « Les retraités sénégalais de Bordeaux au Sénégal, circuler pour rester des go-between ». Une partie suivante s'intitule « Frontières et ancrages ». Et le premier article est un article de Patrick Pérez avec un propos liminaire de Michel Peraldi qui s'intitule « Quand vient l'âge des choix migratoires ?» Et le second est un article intitulé « Frontières et récits d'appartenance des Polonais émigrés au Cap » d'Anna Kruczynska.
La dernière partie s'appelle « Migration et religion » et donc est composée de trois contributions. La première, penser le djihadisme comme une forme de migration, donc de Farhad Khosrokavar. La suivante, mobilité européenne et renouveau religieux en Afrique, l'exemple de Souko Maïkari, de Frédéric Louveau. Et ensuite, donc la dernière contribution, qui est de Pamela Mie-Mouiti, qui nous parle de quand le retour est au programme de Dieu. Voilà.
Voilà, présentation, plusieurs voix pour donner un peu de dynamique.